bon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, c'est les Coligarigues à Montpellier, Cadet-Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron. Et bien évidemment sur Reims ou sur Radio Primitive où cette émission est enregistrée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bon, et bien écoutez, ce soir, on va faire encore un petit tour de France. On va aller surtout aller dans l'ouest, là, puisqu'on va aller voir à Nantes. Et puis, vers 7h30, un peu plus, peut-être, on ira à Saint-Nazaire.
Petit tour de Bretagne, alors.
Attends, voilà, Bretagne. Alors bon, peut-être que ça serait bien que tu parles un petit peu de Reims, quoi qu'on peut en parler après, enfin, je sais
oui,
pas.
Oui, oui, non, mais on peut quand même donner déjà le rendez-vous de mardi, 10h, comme d'habitude, hein, petite balade.
Pas mardi, hein. C'est mercredi.
Mercredi, pardon, 10h, oui, oui, mercredi, 10h, manifestation, énième manifestation. Faut dire que, malheureusement, pour le moment, l'intersyndicale et l'AG de ville, puisqu'il faut pas éluder la responsabilité de cette instance d'organisation est assez peu sur le mode de la proposition. Donc, elle n'a que des manifestations à proposer. Alors, quand même un élément intéressant, jeudi soir, il y avait une première manifestation, un défilé au flambeau, qui était quand même, faut le dire, plutôt joli, quoi. C'était assez, assez impressionnant. Il y avait un petit côté, comment dire, attaque du château. Et puis, vendredi matin, une manifestation qui a rassemblé encore environ 1200 personnes. Mais, malheureusement, avec un parcours qui avait été refusé par la préfecture, un parcours qui devait normalement passer par les différents lycées de la ville, puisque depuis quelques jours, il y a quelques lycéens qui viennent se joindre aux manifestations, notamment grâce, on va dire, à l'enthousiasme et au dynamisme, à la volonté des cheminots de faire quelque chose d'un peu plus sympa dans les cortèges, à savoir ne serait-ce qu'un camion avec une sono un peu plus joyeuse que la traditionnelle trilogie Jean Ferrat, Temps des cerises et trompettes syndicales, où désormais on n'a que la punition, quoi, c'est-à-dire la musique de nerf, on n'a même plus les merguez ni le Ricard à la fin, c'est vraiment terrible. Alors pour les cacahuètes, tu repasseras. Donc voilà, ça rassemble quelques lycéens. Alors il y a quand même un fait nouveau qui est quand même important à signaler pour des gens qui nous écouteraient et qui seraient intéressés pour rejoindre la manifestation, c'est que depuis quelques temps, les clébards du capital, c'est-à-dire les flics, commencent à montrer les crocs. Et jeudi soir, il y a eu une interpellation, assez, alors pas trop musclée, mais assez assez chelou, dans le sens où on les avait pas vus. C'est des nouveaux, hein, ils ont changé les Faites attention à ce que je dis. Voilà. Ils ont changé le personnel. Et donc, on les a pas reconnus. Puis, ils n'avaient pas les brassards. Donc, en plein milieu de la manif, bouf, il y a deux types qui ont sauté sur un troisième. Et bon, malgré l'intervention de quelques personnes qui étaient là et qui ont essayé de ceinturer leurs camarades pour l'empêcher, ils ont réussi à s'en emparer. Alors, Faut quand même dire que la BAC a eu un peu de chance parce que les gens étaient bien vénères de la manière dont ça s'était déroulé. Et puis heureusement quelque part c'est les policiers en uniforme qui ont fait redescendre la tension parce que sinon ça pouvait partir dans tous les sens. Alors à noter le courage, la solidarité, la pertinence phénoménale du reste du cortège qui s'est bien évidemment dépêché d'évacuer. Va vraiment falloir s'occuper nous-mêmes de notre sécurité et s'occuper nous-mêmes de notre mouvement parce que le jour où on sera derrière des barbelés, on entendra encore ces gens nous dire surtout ne nous évadons pas parce que on est en train de négocier, on va peut-être avoir des colis de Noël, donc ça serait bien de pas trop non mais je sais pas franchement et puis surtout cette attitude agressive et arrogante de la police s'est reproduit le lendemain alors on va dire que quand on est des militants révolutionnaires, on sait bien que la police n'est pas nos amis et qu'on a vocation à s'organiser et à se protéger, à prendre en charge la sécurité. Mais il y a des lycéens qui sont là. Et quand on voit des individus qui font du sport, qui ont 40-50 ans, qui viennent mettre la pression sur des gamins, pardon, il n'y a rien de péjoratif dans ce terme, hein, mais sur des gamins de 17 ans, quoi. Vraiment, c'est quand même assez pitoyable et il va falloir vraiment assez rapidement régler ce problème parce que sinon ça risque de.
Oui, ce qui m'a étonné pour vendredi, c'est, j'ai l'histoire, j'étais pas là, mais pour vendredi, c'est le manque total de solidarité, hein, le manque de, on était très peu à surveiller ces baqueux, très peu, vraiment très très peu, et en plus à plusieurs reprises, au moins deux fois, les gilets jaunes ont voulu détourner légèrement la manif, hein, une fois pour aller à la gare et une autre fois pour s'installer sur les marches de la mairie, et ils n'ont pas du tout été suivis. C'est-à-dire qu'on était, on était 100, 150, et puis c'est tout. Le reste, droit dans ses bottes, ils ont été, ils ont suivi l'union locale CGT, LO, c'est tout.
Mais quoi. Quelle est la part de stupidité, quelle est la part de peur? Tu vois, je sais pas mettre le curseur.
C'est sûr qu'au niveau de l'union locale CGT, c'est la peur. Ça se voit d'ailleurs, hein. Ils ont la trouille. Ils ont une trouille mortelle. C'est normal. Le trotskiste a toujours peur des mouvements sociaux. Qu'il ne contrôle pas définitivement. Donc voilà, quoi. Je pense que.
Alors, je regarde le titre de la page que tu as devant les yeux. L'important, c'est que ça se passe bien. Pour qui?
Tout à fait ça.
Mais quoi. Pour qui? Pourquoi? qu'est-ce qui se passerait mal? Enfin, pourquoi ça se passerait mal? Pourquoi ça se passerait pas bien? Et qu'est-ce que c'est pas bien se passer? Enfin, je veux dire, ça se passe bien pour qui? Pour Macron? Bah oui, pour le moment, oui, ça avance, il n'y a pas de problème. On déblatère et c'est très mal poli parce qu'on a des invités...
au téléphone. Notes,
voilà, des invités nantais. Bonjour, invité nantais.
Salut.
comment vas-tu? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur nos remarques liminaires, hein? À savoir, l'important, c'est que tout se passe bien et qu'est-ce que c'est que cette histoire de syndicats qui finalement se contente de gérer une colère et une mobilisation sociale somme toute pépère, quoi, même s'ils sont obligés de rapprocher les journées d'action, mais bon.
Oui, bah, ça ressemble complètement à ça. C'est-à-dire que en fait à Nantes, il se passe le même phénomène au point qu'il y a 15 jours les syndicats ont préféré, enfin l'intersyndical a préféré faire une manifestation à 11h plutôt que de se retrouver à 14h avec la manif contre ouest des gilets jaunes, quoi. Et donc on a eu deux cortèges. On a eu deux cortèges à 3000 le matin et à 2000 l'après-midi. Et bon, ce qui démontre un peu la force réelle, un peu de l'intersyndicale et puis la mouvance qu'il y a en dehors de ça, quoi. Et bon, ça c'est vraiment déplorable. Il y a eu aussi une autre une marche au Flambeau où à un moment donné la composante syndicale elle a bifurqué vers un site périphérique plutôt que de continuer à tourner en ville. Et donc il y a eu deux cortèges qui sont formés. Ça illustre assez bien ce que vous venez de dire sur un.
Ouais, tout à fait. Sauf que nous, il n'y a pas grand monde pour contester ce tracé. Négocier avec la préfecture de A à Z. Alors, à signaler que sur Reims, par exemple, il a décidé d'en nager de faire une manif en direction des lycées, parce qu'il y a les lycéens, certains lycéens commencent à bouger, c'est quand même vachement important. Et effectivement, ils vont, l'Union locale CGT, négocier avec la préfecture pour ce tracé. Il était évident que la préfecture allait refuser le tracé. C'est évident.
Ah oui, d'accord.
Bah, tu vois, bon. Et alors, qu'est-ce qu'a fait l'Union locale CGT? Elle a tout fait pour que la préfecture, le tracé de la préfecture, soit respecté.
Bah, il faut obéir à la loi, hein.
Bon, voilà.
Mais pourtant, il me semble qu'il y avait eu, je me souviens de il y a quelque temps dans ma jeunesse, avoir participé à des manifestations contre des projets d'aéroport, et il y avait eu des rapprochements justement entre des intersyndicales, des syndicats, des organisations, on va dire, plus traditionnelles du mouvement ouvrier et d'autres organisations ou composantes plus mouvementistes.
Hein. Tout à fait. Comment dire, pour être honnête, il faut bien préciser qu'à Nantes, il y a quand même. Il y a une composante non négligeable de la CGT qui est très sensible aux gens justement qui ne sont pas forcément sur une démarche orthodoxe syndicale pur jus, quoi, façon INSA, et puis qui sont d'accord pour trouver des biais, quoi. Mais là, c'était trop fort, là. C'est-à-dire que bon, la CGT ne s'est pas sentie de trahir l'intersyndicale, quoi. Et donc, ils ont appelé à 11h. D'ailleurs, c'était pas les mêmes personnes. Hein. Moi, j'ai fait les deux cortèges. C'était pas les mêmes personnes qui manifestaient. Quoi. Et d'ailleurs, le scénario n'a pas du tout été le même. Le matin, les flics ne sont pas intervenus. L'après-midi, ça a été la grande... Il y avait toute la panoplie. Hein. Toute la panoplie répressive, avec deux canons à eau et tout. La seringue. Enfin, bref. Mais oui, c'est vrai qu'il y a encore... bien sûr, il y a des camarades de CGT qui sont désolés de voir un peu la tournure tendance générale que ça prend, quoi. Mais qui pèsent aussi pour essayer d'avoir une démarche plus élargie et plus offensive, quoi. Mais néanmoins, à Nantes, comme partout ailleurs, je crois, il y a une pente générale vers l'arrêt du mouvement, quoi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, un ralentissement, quoi. Alors, il faut voir un peu ce qui se passe au niveau des avocats, de leur action, parce que là, à Nantes, ils en font je ne connais pas les termes spécifiques, mais ils ont lancé une procédure dans laquelle le parquet doit réagir sur 15 jours. Et s'il ne réagit pas sur 15 jours, automatiquement, les gens rentrent dans une procédure, il y a encore une semaine de délai, et après, les gens sont relaxés, quoi. Et donc, les avocats à Nantes, ils ont avancé une liasse d'une centaine de dossiers, quoi, histoire d'écraser sous la masse les fonctionnaires en place, et donc pour poser la question des contradictions, quoi, internes, quoi. Mais je sais qu'ailleurs, il y a aussi la grève du zèle, où tu as une dizaine d'avocats qui s'investissent sur la défense d'une personne qui avait juste l'aide juridictionnelle, quoi. Et du coup, les tribunaux sont complètement
débordés, ouais, engorgés.
Bon, alors il y a cette action-là. Alors à Nantes aussi, au niveau des lycées, il y avait des lycées qui étaient présents, parce que à Nantes comme ailleurs, les flics font un gros travail de découragement et d'harcèlement sur les jeunes, quoi. Que ce soit aux portes des bahuts ou même dans la rue avec des fouilles d'affaires, tout ça, etc., quoi. Et là, dans la dernière grosse manif, c'était vendredi. Il y avait quand même du monde. Il y avait des lycées qui viennent. Alors ça serait peut-être le verrou aussi qui pourrait permettre de...
Ça change, quoi.
Ouais, qui pourrait permettre de débloquer, quoi. Bon, ça, on ne sait pas. Il y a les docks. Il y a le port de Nantes-Saint-Nazaire qui était en grève.
Ouais.
Ça, apparemment, ça a des applications très rapides sur la grande distribution, parce que comme c'est en flux tendu, dès qu'il y a un retard dans la chaîne... d'approvisionnement, ça se transmet en absence de produits au niveau de la vente, quoi. Et donc ça touche directement le porte-monaie. Je sais pas si c'est difficile. J'ai du mal à faire un diagnostic l'avenir du mouvement.
Alors, ce que c'est, de toute façon, on a le nez dedans, donc c'est difficile de prendre du recul. Mais ce que tu décris a été décrit de nombreuses villes, qui aurait une espèce de gilet jaunisation du mouvement social, à savoir quelque chose de
permanent, mais ponctuel, mais avec une vraie radicalité à l'intérieur. Et la difficulté, c'est que à l'intérieur des différentes expériences qu'on a pu voir au cours des entretiens qu'on a eus avec les camarades, il y avait quand même une difficulté à savoir est-ce que ces agrégats qu'on retrouve dans les villes sont assez forts et sont capables de se constituer en force de proposition autonome et crédible, c'est-à-dire en étant capable d'imposer leur propre agenda, leurs propres actions, leurs propres et ça là-dessus semble-t-il c'était encore très faible. C'était pas possible. Est-ce que tu vois des indices comme ça à Nantes qui pourraient aller dans ce sens?
Bah écoute je me dis que si normalement ça devait émerger, et ça se traduirait en assemblée générale interpro ou assemblée générale de lutte, qui émergerait avec un noyau assez conséquent, avec un mélange syndiqué, non syndiqué, militant ou non militant. Et ça a pas lieu à Nantes. Hein.
D'accord.
Ça,
nous encore moins. Hein.
Attention, je veux pas non plus cracher. Il y a bien sûr des AG à 50, 80 personnes, hein, mais c'est très faible, quoi. Ça représente pas une force autonome avec une dynamique assez homogène pour peser, quoi. Il y a du monde, hein, mais c'est très hétérogène. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai ressenti pendant le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait du monde, il y avait une envie de lutter, mais tellement d'hétérogénéité que ça donne pas grand chose, quoi. Il y a une grande faiblesse au niveau d'expression, quoi. Alors il y a des actions. Par exemple, il y a des gens qui sont allés bloquer la sortie du journal
Ouest France.
Du quotidien Ouest France. Ouais. Là, apparemment, il y a 70 000 journaux qui sont partis au pillon parce qu'ils n'ont pas pu sortir de l'imprimerie.
C'est une atteinte à la démocratie, à la liberté de la presse. Scandaleux.
C'est exactement ce que Ouest France a entonné. Tout en niant le fait que la presse, justement, elle forme le consensus pour le pouvoir et pour le capital, mais bon, c'est pas grave.
Ah bon?
Ah merde.
Il y a eu ce genre d'action, il y a eu aussi des blocages de la TAN, des transports nantais, quoi.
Ouais.
Sur différents dépôts de la TAN. Il n'y a pas énormément de monde, quoi. Il y a une petite centaine de personnes, quoi, qui sont réparties sur trois sites, quoi. Ce soir, il y avait les vœux de la présidente de région, avec le préfet, la maire, tout ça, etc. Bon, normalement, si j'avais pas fait l'interview, j'aurais dû y être.
Tout à fait. Mais aussi, c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de villes, le fait que les gens aient envie d'aller pourrir tout ce type de manifestation, aller pourrir le député du coin En Marche, hein, ou un autre, aller pourrir les vœux de tel ministre, et on voit avec quel courage, et c'est bien aussi un signe fort par rapport à la déconnexion du réel et à l'isolement du pouvoir, et ça déserte à fond les ballons. Dernier truc en date, la déconvenue du ministre Riester à l'inauguration d'une expo au ministère, à la BNF, pardon, il y a dispolouche. Donc ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, quoi. Ça fait très, comment dire, très sud-américain, quoi, les défilés avec les casseroles sous les fenêtres.
C'est pas seulement latino, je pense que ça participe d'une montée d'effervescence sociale. Alors, je sais pas si elle va tenir ou si elle est en crescendo, mais comme la situation semble bloquée, les gens ont comme encore envie de porter une conflictualité, et ça se passe contre les représentants, justement. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt parti. Je sais pas si ça va s'ancrer, mais... là, normalement, il y avait les dockers qui devaient venir. Alors, je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Mais généralement, quand ils se déplacent pas pour rien, je sais pas si... On verra. Parce qu'il faut quand même dire que la présidente de région, c'était quand même la vice-présidente derrière Retailleau. Retailleau a été élu. Alors Retailleau, il faut préciser, c'est le président du groupe LR au Sénat. C'est vraiment, c'était le bras droit de Fillon dans la dernière présidentielle. Et c'est un mec qui est issu du Puy du Fou, tu vois. Avant c'était le second de Devilliers, après il est devenu le second de Fillon, et là en ce moment, extrême à destin national. Et c'est sa colistière, sa présidente, qui en fait est aujourd'hui présidente de, des Pays de la Loire, et bon, qui se répand contre le mouvement de grève, justement, comme dans les termes qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que c'était un enjeu de, d'aller lui pourrir sa, sa cérémonie des vœux.
Tu m'étonnes. Et la ZAD, ou quelle est la ZAD?
Eh bien, la ZAD, la ZAD rame. parce qu'il faut quand même préciser que au moment des expulsions, en avril 2018, quand le projet d'aéroport a été arrêté, les FIC ont détruit 45 logements sur 90, 95 qu'il y avait. Donc, il en reste quand même 50 debout. Ou alors, ou des anciens, ou des nouveaux qui ont été construits. Et là, comme les terres ont été réaffectées au Conseil Général, et puis que le projet d'aéroport s'est arrêté, les PLUI, ça s'appelle les, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLUI, c'est ce qui fixe un peu les zones d'habitation, les zones d'activité commerciale, industrielle, ou alors agricole. Et en fait, c'est en fonction de ces zones que l'on peut construire ou pas tel bâtiment, telle maison, etc. Et le problème, c'est que comme la ZAD, c'était un terrain qui était un petit peu hors la loi depuis 6-8 ans, il y a des cabanes plus ou moins confortables, ou alors des édifices qui ont été construits, totalement en dehors des réglementations. Et comme là, la communauté de communes qui gère le territoire où il y a la ZAD, quoi. Parce que la ZAD, en fait, elle est répartie sur 4 communes. Le PLUI va définir des choses et il y a des bâtiments qui n'ont pas du tout de permis de construire, ou alors des bâtiments qui ont été rénovés, ou alors des bâtiments qui ont été rasés, qui sont en train d'être reconstruits, et des permis de construire ont été déposés dans les communes, dans les 4 communes, quoi. Alors, bien sûr, ça va rentrer un peu en contradiction avec PLUI, hein, parce que, je ne sais pas si un jour nos auditeurs sont intéressés à la question d'avoir un permis de construire, mais un permis de construire, c'est pas donné comme ça au hasard, il faut remplir tout un tas de critères plus ou moins draconiens, plus ou moins pointilleux, et jusque-là, nos amis de la ZAD s'en étaient passés, quoi. Et donc ça, c'est quand même un gros problème, parce que les gens habitent dedans, quand même, depuis des années, quoi. Donc, ou bien les communes montrent les dents, les maires montrent les dents, et ben voilà... On exerce notre pouvoir de potentat local et puis on transmet le dossier à la justice. Dans ce cas-là, les juges ils vont juger en fonction des lois. Et là, on va vers un rapport de force et vers une confrontation, quoi. Mm-hmm. Ou bien l'État est plus subtil, parce qu'il semblerait qu'il y ait encore une personne qui est chargée de la ZAD à la préfecture de Nantes. Et donc, en fonction de critères plus ou moins clairs, ils accepteront certains bâtiments et ils en refuseront d'autres. Enfin, en tout cas, on va vers un rapport de force, à un moment donné, sur ce truc-là, quoi.
D'accord.
Donc, les copains et les copines, hein, on se voit régulièrement à Nantes, hein, dans les manifs, hein, mais, et d'ailleurs, ils sont actifs, puisque les gens qui, par exemple, qui animent la KGP des terres, c'est une sorte de petit groupe qui se préoccupe de soutenir les piquets de grève et les mouvements sociaux, quoi. Ils sont régulièrement dans les manifs à Nantes, quoi. Mais en même temps, ça, c'est cette histoire de PLUI et histoire de permis de construire pour maintenir pérennes les installations qui sont sorties de terre depuis longtemps. Bon, ça leur prend pas mal d'énergie, quoi.
D'accord.
Et sinon, il faut quand même préciser que l'anniversaire de l'arrêt du projet d'aéroport qui a été fêté le 17 janvier, ça fait 2 ans maintenant. Bon, on s'est quand même retrouvé à près de 600 à 700 personnes à faire la fête toute la nuit. Hein. Ça a terminé quand même à 9h du matin. Hein. Donc, il faut quand même, je ne précise pas dans quel état, mais néanmoins, c'était très chaleureux, on a bien mangé, bien bu, et on a bien dansé. Et donc, ça prouve quand même que la lutte n'est pas du tout isolée. Hein.
Ouais, bien sûr. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse y avoir une espèce de communication de cet enthousiasme à travers l'envie, pas seulement de vivre et de revivre des moments comme ça pour soi et pour changer sa vie, mais pour aussi changer le monde, quoi, transmettre cette envie de ce qui a pu être positif dans la lutte de la ZAD à l'intérieur de l'ancien mouvement social, du vieux mouvement social, je sais pas comment l'appeler.
Ah, bah ça, c'est une bonne question. J'avoue que si tu as la solution, on est demandeur.
Pas du tout.
Je pense qu'il y a des interrelations. Sur un département comme la Loire-Atlantique, dans les milieux militants, syndicaux, tout ça, il y a des ponts. Hein, et les milieux politiques, il y a des ponts vers, je passe toujours à la ZAD, etc. Quoi. Après, la question de la ZAD, en fait, il y a deux façons de l'aborder. Ou bien tu l'abordes de façon idéologique, purement théorique, et dans ce cas-là, plus radical que moi, tu meurs, il y a toujours des gens qui disent non, ça y est, la ZAD, c'est fini. Ou bien tu l'abordes d'un point de vue pragmatique en disant c'est une tentative concrète de créer par nous-mêmes, avec les forces qu'on a face à l'État, créer une autre organisation sociale à toute petite échelle, bien sûr, mais néanmoins qui pose des choses qui sont quand même très contradictoires par rapport à la problématique de l'agriculture aujourd'hui, à la question du logement, à la question aussi de la solidarité entre les gens au niveau du quotidien. Les gens à la ZAD, ils sont pas tout seuls. Alors que toi, quand tu habites dans une ville, t'es tout seul, quoi. T'as ta famille, il y a quelques potes, mais t'as pas de force, quoi. T'as pas un collectif, quoi, qui te soutient, quoi. À la ZAD, c'est pas comme ça. À la ZAD, tu peux t'organiser, il y a différents. Il y a un enchevêtrement de liens, de solidarité. Collectif, pour produire à bouffer, pour soger, tout ça. Et ça, c'est, à mon avis, vu le désert actuel qui existe en termes de quotidien et de solidarité,
c'est pas si mal.
Pour moi, c'est très important.
Ouais, bien sûr.
Et ça mérite d'être défendu. Ça mérite d'être défendu, en plus, ça, sur des bases de classe, sur une critique anticapitaliste. Faut pas cracher dans la soupe.
Ah, pas du tout.
Non,
il n'y a pas d'opposition des deux formes et des deux modèles. Au contraire, ça doit être des vases communicants. Et tu l'as dit, je pense que le chemin, il se fait en marchant. Et, en prenant le meilleur des deux côtés, à savoir ici la lutte de classe avec un contenu de classe dans ces combats. De l'autre côté, de la joie, de l'innovation
du travail aussi,
ouais. Comment?
Bien sûr. Le travail de la terre, ça, c'est pas que dalle, quoi. C'est un vrai boulot, quoi. Produire à bouffer, c'est pas rien. D'ailleurs, il faut, je dis ça pour les auditeurs, s'ils ont envie de voir un peu où en est la ZAD, l'été prochain, il y aura un moment privilégié. Ça commencera le premier week-end de juillet. Le vendredi, le samedi et le dimanche, 3, 4, 5 juillet, il y aura une fête avec des débats aussi, des stands à bouffer, possibilité de camper, donc possibilité de rencontrer des gens, discuter, d'aller voir les différents lieux sûrement. Ça s'appelle ZAD en vie. Et après, du lundi 6 jusqu'à la fin de la semaine, vendredi, il y a la semaine intergalactique. Alors la semaine intergalactique, ça va être des rencontres avec des débats sur différents thèmes. Cette année, on a retenu la question de ce qui se passe dans le monde, quoi, au vu de toutes les révoltes qui sont apparues, du Chili à Hong Kong, de l'Iran.
En passant par le Liban.
Exactement. Et on essaie de faire justement 6 jours de débat et de discussion avec bien sûr des moments festifs. Donc, surtout, ne loupez pas début juillet si vous avez envie de venir voir ce qui se passe à la ZAD par vous-même et de rencontrer des gens, ça sera idéal.
Je crois qu'on reviendra là-dessus à la radio. On aura l'occasion d'y revenir avec toi. Et puis, je pense que même on sera certainement présent puisque la ZAD est un endroit où on aime bien passer les moments. Mais finalement, on est parti sur totalement autre chose. Est-ce que, avant de conclure, tu souhaiterais rajouter quelque chose sur le mouvement social à Nantes en particulier, ou d'une manière générale, comment est-ce que tu vois les choses nous faire bénéficier de tes lumières, tes capacités d'analyse dont la réputation a largement dépassé les frontières du pays de Retz.
Honnêtement, je crois qu'il faut être attentif pour voir ce qui se passe, ce qui peut émerger, ce qui peut rebondir aujourd'hui. Pour le mouvement social, quoi. Il y a la problématique des classes, elle est clairement sur le tapis aujourd'hui. je pense qu'il faut, faut la reprendre au bon et puis la renvoyer dans la gueule du pouvoir.
Ouais, puis paradoxalement, il pourrait bien que ce pouvoir soit pas aussi serein que ça, puisque à l'intérieur de la bourgeoisie, on l'a toujours dit, hein, y a des fractions. Il n'y a pas d'unité, c'est pas tout le temps super homogène, et on voit bien là que la conclusion, le premier rapport du Conseil d'État est assez sévère, quoi. Hein, c'est quand même assez étonnant. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se bouger, parce qu'il y a une partie des capitalistes, notamment les capitalistes certainement industriels, qui eux ont pas du tout les mêmes intérêts que les capitalistes privés, et certainement qu'à un moment ça va commencer à les saouler de pas pouvoir produire comme d'habitude et correctement, quoi, de pas pouvoir faire tourner la machine économique correctement, quoi. Voilà,
ça c'est sûr qu'il y a Comme la crise s'exacerbe, hein, en termes de profit, maintien du taux de profit, ça sera assez logique qu'il y ait des divergences dans le camp dominant, et puis avec des enjeux à régler, quoi. Hein. Ouais. Ça, en plus de ça, bon, remettre en selle la question des classes, aujourd'hui, pour les industriels, c'est sûrement pas bon. Hein.
Non, c'est clair. Très bien. Ben, écoute, merci Gérald.
Merci Gérald.
De rien.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Ni du thé, du thé.
Moi volontiers.
Ah, volontiers. Okay.
Bon, et bien on va continuer. Entre autres, on a au téléphone Philippe de Saint-Nazaire qui va un petit peu nous parler de la situation là-bas. Philippe, tu m'entends ?
Oui, je vous entends bien. Ouais. Merci.
Alors raconte-nous un petit peu maintenant, au niveau de l'éducation nationale déjà.
Alors, au niveau de l'éducation nationale, ça reste, je pense, sur Saint-Nazaire, un des secteurs les plus mobilisés, hein, avec des alternances entre le primaire, les collèges et les lycées. Et là, sur la dernière semaine, ce qui s'est passé un peu comme partout en France, c'est un fort mouvement au niveau des lycées généraux et technologiques, enfin du lycée général et technologique, il n'y en a qu'un public sur Saint-Nazaire, avec un fort mouvement de rejet des E3C, hein, les épreuves communes de contrôle continu, qui sont les épreuves de bac, du nouveau bac Blanquer, qui se passent maintenant au niveau de la classe de première.
Est-ce qu'il y a eu des phénomènes de boycott, de refus de prise en charge, ou tout simplement parce que, au-delà de la lutte contre ces E3C et de la lutte contre Blanquer, c'est un bordel monstrueux, à tel point que même les chefs d'établissement sont complètement catastrophés face aux boxons, quoi. Donc je me demande s'il y a un subtil mélange entre une opposition, une lutte, et en fait le fait que c'est aussi impossible à organiser, quoi.
Alors, c'est un peu de tout ça. Si on est sur un point très très corporatiste, éducation nationale, ces examens, c'est de la communication de la part du ministère qui veut passer à marche forcée, et c'est absolument pas du boulot. On nous présente comme contrôle continu un truc qui est finalement un examen ponctuel. On nous présente une épreuve nationale avec une banque de sujets qui a été connue seulement au mois de décembre pour préparer des élèves qui passaient l'examen à partir du mois de janvier. Des programmes qui ont été découverts cet été par les profs sans savoir sur quoi ils devaient interroger les élèves de janvier. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi et de l'application d'une réforme à marche forcée, à tel point qu'effectivement, même les syndicats de personnel de direction, hein, le SPDEN, qui est un syndicat de l'UNSA, le syndicat des commissaires et des chefs d'établissement, a dit au ministère que c'était ingérable et vraiment les foutre dans la merde que de faire passer des examens de cet ordre-là. Alors bon, les chefs d'établissement se sont fait acheter avec des indemnités pour compenser le travail énorme qu'ils sont obligés de fournir pour mettre en place cette perte, donc ils ont fini par s'écraser. Les parents d'élèves sont effarés également des conditions dans lesquelles les profs sont censés préparer les gamins. Donc il y a une position de la FCPE qui demandait le report des E3C et jusqu'à la CFDT s'est déclarée contre ces épreuves parce qu'elles étaient mal préparées et que c'était absolument pas du contrôle continu et qu'exigeait un vrai contrôle continu. Donc on a eu un front du refus général, parce que bon, je ne vous parle pas du SNES, de Sud Éducation, de la CGT, de FO, enfin bon, qui ont des discours plus attendus, je vais dire, dans l'opposition aux réformes ministérielles. Donc, enfin, il y a vraiment un rejet massif de ces examens. Ce rejet a été un peu amplifié par le mouvement de réforme des retraites. Il y a vraiment eu un renforcement réciproque entre mouvement des retraites et puis les E3C comme moyen de pression interne à l'éducation nationale pour montrer le mécontentement. Donc c'est vraiment un double mouvement de balance.
Vendredi, il y avait des profs qui avaient des panneaux, des profs du SNES, qui avaient des panneaux 0,1% qui portaient des pancartes 0,1%. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils avaient ça?
Parce que Blanquer a fait, il était invité de questions politiques sur France Inter le dimanche précédent. Ouais. C'est quand même une émission avec une certaine notoriété. Et il a dit que, en gros, tout se passait bien dans 99,9% des établissements et pour 99,9% des profs. Là où il y avait de la contestation, c'est parce qu'il y avait des pyromanes qui mettaient le feu pour dire ensuite que tout allait mal. Donc un certain nombre de gens se sont dit « Ok, on va se compter » et nous sommes des 0,1%.
Bon, c'est bien, ça va plus vite pour les flics. C'est...
voilà. Donc bon, c'était le sens de 0,1%. Okay. Et puis il y a des actions dans ce sens-là qui vont se poursuivre. Là, je sais que dans mon bahut, par exemple, c'est les portes ouvertes le 8 février. Ouais. On va se travailler avec des brassards 0,1%, histoire d'expliquer un peu ce qui se passe aux parents. Enfin, c'est une des actions qui est prévue. Mais bon, c'est là où on est dans un déni de réalité de la part du ministère qui est assez fabuleux, quoi, parce que sont concernés par ces histoires de 3C uniquement les lycées généraux et technologiques. Il y en a un peu moins de 1600 en France, hein, de lycées généraux et technologiques. D'après les informations qu'on a réussi à avoir par des cadeaux en plus extra-syndicaux, hein, autour de la coordination nationale, etc., il y a plus de 400 établissements où le passage des épreuves a été perturbé.
Ouais.
Donc on est sur un quart des établissements où il y a de la résistance. C'est énorme. Alors après, les formes de résistance se sont exprimées de plein de façons. Il y a eu des blocus d'élèves, il y a eu des perturbations des épreuves par des âgés de grévistes. Il y a eu des grèves d'enseignants qui font que ça a pu se tenir parce que on a fait appel. Enfin voilà, donc on a eu, c'était de la folie là. Et puis ça continue cette semaine. La semaine dernière, le lundi, la direction avait décidé de faire remplacer les profs grévistes par des AED, donc les surveillants. Résultat, tout le service scolaire était en grève. Il n'y avait pas d'AED, il n'y avait pas de CPE le lundi pour le démarrage des examens. Donc ils ont réussi à faire passer les examens en réduisant le nombre de salles. Plutôt que 12 salles, ils ont entassé les gamins à 35 par salle pour arriver à 9 salles. Ils sont allés chercher les chefs d'établissement, les secrétaires, y compris du lycée voisin, pour venir faire surveiller les épreuves et que les épreuves se tiennent, quoi. Les consignes ministérielles et rectorales sont: il faut que les épreuves se tiennent coûte que coûte et qu'il ne faut pas que ça se voit, quoi. Donc,
et les élèves acceptent de passer, de bosser dans des conditions comme ça?
Oui, là c'est ce qui s'est passé. Les mômes ont composé à partir du moment où on leur a mis un surveillant à 35. Alors après, ils nous ont raconté des trucs, ils ont pompé allègrement, ils avaient eu des sujets sur Snapchat avant parce qu'il y a des fuites au niveau des banques nationales. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais les apparences sont sauves et le ministre peut dire que tout se passe bien.
Ouais, mais avec un mépris, comme tu dis, un mélange entre une inconscience, un déni de réalité, et un vrai mépris, quoi. C'est ça qui est bien avec ce gouvernement, c'est que les choses sont claires. Comment dire, l'arrogance et le mépris n'est pas dissimulé, quoi, derrière une quelconque façade, quoi. C'est bien en face, quoi.
Tout à fait. Là, c'est vraiment... enfin bon, les chiffres que je viens de donner sont... sur les 400 établissements où il y a des choses qui sont passées sur les 1600, c'est public, quoi. c'est pas contestable. Et il peut malgré tout nous dire que tout se passe bien dans 99,9% des cas et tout le monde est content de sa réforme.
Mais je me tais parce qu'il y a Denis qui avait des questions à te poser sur le port.
Oui, ouais, un petit peu. Parce que bon, il semble bien que les ports soient une épine dans le pied du pouvoir, et on se demandait sur place qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que bon, le port, de temps en temps, certains ports sont bloqués, 2 jours, 3 jours, c'est quand même un truc corporatiste, non?
Alors, pas mal, bon, bah, les dockers, hein, sont effectivement une corporation assez particulière. Là, on a eu des mouvements conjoints de dockers, de portuaires et de marins, notamment sur Saint-Nazaire. Donc on a eu, il y a 2 semaines, 3 jours de blocage des ports qui étaient mardi, mercredi, jeudi, et avec un blocage effectif. Sauf que à partir du moment où ça a redémarré au niveau des docks sur le week-end et que il y a eu un nouveau mouvement de grève de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine passée, entre-temps les bateaux qui étaient en attente au large débarquent à Coste vides, et donc ça a une alors qu'il y a réellement un rapport de force sur l'économie et sur l'industrie locale avec le blocage, en faisant 3 jours, puis en reprenant le boulot, puis en refaisant 3 jours, ça permet à l'économie de continuer à fonctionner malgré tout.
Et ouais. Il semblait que les marins et les dockers conservaient leur spécificité de leur régime, non?
Alors, il y a des choses qui sont en tractation et en discussion, semble-t-il, au niveau du ministère des Transports sur Paris, mais j'ai assez peu d'éléments et j'ai du mal à déterminer ce qui est de l'ordre de...
De l'annonce et de la réalité.
L'annonce et ce qui est de l'ordre de la réalité. Donc, il y a assez peu de choses qui se passent. Après, concrètement, en termes de solidarité, de lutte, on avait prévu, nous, avec au niveau de l'intersyndicale et avec les camarades de la CGT Mine Énergie d'aller bloquer le terminal méthanier il y a une semaine. On s'est pointé, les dockers étaient déjà sur place parce qu'ils bloquaient tous les accès au port, dont l'accès du méthanier. Et l'accueil a été tellement chaleureux qu'on est reparti sur un autre emploi. Parce que manifestement, on n'était pas vraiment les bienvenus, alors que le syndicat majoritaire, c'est la CGT, qu'on était avec l'intersyndicale CGT, et c'est une action de prévue, quoi. C'était pas les gauchistes qui venaient chatouiller.
toucher du docker en vrai.
Et voilà, c'était une action de l'intersyndicale, et je pense qu'on. Enfin, on n'était pas les bienvenus, parce que donc, on a jarté, on est retourné sur un autre rond-point, sur une autre action.
Et il me semble que pas très loin de chez toi aussi, il y a une grosse usine Airbus.
Alors ça fait partie des choses. Hein, quand on fait le bilan en intersyndical, et puis c'est intéressant parce qu'on arrive quand même à en discuter pas mal. C'est que la métallurgie a pas débrayé sur le secteur.
Ouais.
Ça c'est un peu des choses qui seront dites dans le prochain CA. Mais pour Airbus par exemple, ils arrêtent le travail en ce moment alors qu'il y a un carnet de commandes plein, ils sont dans la merde, d'autant plus que Airbus est en train d'augmenter les cadences et la production pour, sur le site de Gron, là, à Montoire, passer à 50 avions par mois. Donc, en pleine période de grève, on a la direction d'Airbus qui annonce une acceptation d'un plan d'augmentation des cadences et de la productivité pour passer à 50 avions par mois. Donc ça explique aussi pourquoi FO, qui est majoritaire dans la boîte, est aussi peu visible sur le secteur et en tout cas a pas fait le job au niveau de l'aéronautique. Et on a un peu la même chose au niveau des métallos des chantiers qui là sont plus tenus par la CGT. C'est sûr que quand le chantier qui est redevenu les chantiers de l'Atlantique, là on ne sait pas encore si les Italiens ou si les Français, enfin bref, c'est toujours en stand-by sur ces histoires de revente après l'épisode STX. Le chantier négocie 11 milliards de contrats avec 3 nouveaux paquebots, on ne va pas foutre la grève en plein milieu pour ne pas compromettre la négociation. Donc les gars ne sortent pas. Alors non seulement il y a tout le problème de la sous-traitance, des intervenants et des équipes de travailleurs détachés avec qui c'est extrêmement difficile d'entrer en contact pour des histoires de langue et puis qui sont pas franchement concernés par
la retraite
en France, alors que il y a une combativité chez ces ouvriers là et puis il y a un intérêt, il n'y a pas d'opposition, mais c'est pas eux qui vont partir en tant que sous-traitants étrangers, c'est pas eux qui vont faire la grève, c'est les salariés des chantiers de l'Atlantique, ils partent pas. Donc ça, c'est aussi une des complexités de la réalité de la production sur un site comme les chantiers actuellement.
Ouais, on est encore loin à la grève générale. Hein.
Effectivement, alors il y a toujours, dans les gens qui sont en grève, il y a toujours de la détermination. Sur des secteurs qui s'épuisent, par exemple, on voit beaucoup moins l'hôpital qu'on ne l'a vu en décembre, sur Saint-Nazaire, alors qu'au niveau des urgences, ils continuent à être mobilisés, etc., mais les gens sortent plus parce qu'ils sont épuisés. On a eu les cheminots, mais là, les cheminots ont repris le boulot, c'est un peu plié. Il y a l'éducation nationale qui est un peu en queue de comète, qui est déjà bien présente en décembre, et puis qu'il a fait des actions par rapport à des échéances proches, mais cette détermination et cette continuité n'est pas suffisante pour avoir un rapport de force qui fasse le poids. Alors est-ce que en continuant des petites actions, comme c'est un peu la logique, on va réussir à maintenir un rapport de force ou pas, c'est difficile d'y voir clair.
Mais c'est justement les questions qu'on pose à nos intervenants, c'est-à-dire sur quoi ça va déboucher cette histoire. Alors c'est ça qui est intéressant et excitant aussi, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de défiance, un niveau de détermination qui a été rarement mesuré. Il y a cette envie qui est là, et il y a cette espèce de moteur des gilets jaunes qui est présent, qui alimente aussi la contestation. Donc il y a des gens qui veulent pas lâcher l'affaire, mais on va dire les méthodes traditionnelles, à savoir défilé, grève et tout ça, ne fonctionne pas, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ça fonctionne pas dans le rapport de force, ça c'est certain. Nous, jusqu'ici, on a eu une certaine tolérance de la part du voir, c'est-à-dire qu'on a pu occuper des voies, on a pu bloquer des ronds-points, faire chier de façon assez conséquente sur un certain nombre de petites actions. Puis là, la semaine dernière, ça a changé de registre, hein, c'est-à-dire que les ronds-points, on n'a pas pu les bloquer, on avait trop de CRS en face pour faire quoi que ce soit. La dernière manif, on n'a pas pu descendre sur les voies à la gare parce qu'il y avait également s'il fallait en garde mobile pour nous en empêcher.
Mais attends, tu me vends du rêve. Hein. C'est quoi, vous n'avez pas pu descendre à cause des flics? Quand on approche de la gare, on est déjà, ouf, il y a une excitation terrible parmi les manifestants. Non, pardon, je te laisse poursuivre.
Ouais. Donc, bon, je pense que là, le... Il y a une reprise en main aussi au niveau de la préfecture. Hein, qui est, alors, est-ce qu'il y a moins de... Est-ce qu'ils ont une possibilité de redéployer parce qu'il y a moins de choses qui se passent et ils reviennent un peu sur Saint-Nazaire parce que ça se soulage sur Nantes, ou ça se soulage sur des sites de type stratégique, type la raffinerie ou des choses comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on a bien senti que côté force publique... ils étaient aussi en train de siffler la fin de la récré, quoi. Ouais. Et après, il n'y a pas, même s'il y a une détermination et une rancœur très très forte, le mouvement est essentiellement syndical et il n'y a pas de débordement localement qui pourrait laisser envisager de passer à des choses plus offensives.
Il n'y a pas de structuration de quelque chose qui pourrait faire pendant... À une intersyndicale ou à comment dire un noyau de gens qui pourraient se retrouver sur des mix actions grève protestation.
J'ai pas vu.
Ou t'as pas été invité peut-être mais.
Ouais, ils m'ont pas vu.
Bon ben écoute.
Écoute, on te remercie bien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Espérons qu'on aura l'occasion de revenir une nouvelle fois sur Saint-Nazaire et sur la Bretagne avec des meilleures nouvelles, peut-être.
Ben pour nous, là, on continue. Alors, tant au niveau éducation nationale, là, c'est toujours la grève demain pour les E3C. Donc là, les profs lâchent pas, même si les choses se tiennent, parce que c'est pareil, hein, comme on n'est pas. 80% de grévistes, eh ben, ça peut marcher quand même. Mais ça continue toute la semaine. Il y a encore des épreuves demain, jeudi et vendredi. Et mercredi, dans le cadre du mouvement national, il y a à nouveau manifestation, mais je pense qu'il sera nettement en retrait.
Ouais,
là,
parce que ça,
c'est sur le port, c'est un peu symbolique là devant le chantier.
En plus, il fait normalement.
Pleine échéance, manif de mercredi, mais... Ça sent le sapin, quoi.
C'est clair. Et en plus, il fait pas beau mercredi, donc ça a pas donné envie. Bah écoute, merci beaucoup, Philippe.
Ouais, merci.
À bientôt.
À bientôt. Salut.
Bonne nuit chez vous.
Ouais, on s'est permis de couper Philippe parce que j'ai vu que tu avais entre les mains.
Oui. Il y avait à communiquer.
Une annonce à faire et voilà,
qui
nous reste.
À communiquer qui vaut le coup quand même, parce qu'on avait parlé dans nos émissions. Il y a eu 7 mois et 4 jours de lutte, comme quoi c'est terrible, hein. Levée du piquet de Chronopost d'Alfortville. Alors, de quoi il s'agit? C'est une lutte depuis le 11 juin 2019. Effectivement, ça fait sept mois, plus de 7 mois, où il y a eu 26 travailleurs sans papier qui se sont mobilisés et qui ont fait grève devant l'agence Chronopost d'Alfortville. Ils étaient donc sans papier, ils se faisaient exploiter à partir de 4h du matin jusqu'à 8-9h du matin, tous les jours. Et ils ont obtenu leur régularisation avec autorisation de travail auprès de la préfecture du Val-de-Marne dans le 94. Ce fut donc très long, très dur. Ils ont fait des piquets de grève, ils ont fait des tas de manifs en région parisienne. Il y a eu vraiment des mobilisations. Je crois d'ailleurs que dans notre émission, dans une de nos émissions, on avait parlé.
Peut-être. Et puis je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir si on arrive à choper les contacts d'Alfortville. Alors en plus avec une spécificité, c'est que la poste, donc Chronopost dépend de la poste, c'est marqué dessus, hein. la poste a évidemment s'est dédouanée de toute responsabilité dans l'emploi en disant que ces travailleurs ne relevaient pas de son autorité et que donc on n'avait rien à foutre, hein.
Et en plus, on est sur une spécificité, hein, sur les travailleurs sans papier, avec cette histoire de récépissé. Souvent, on s'inscrit avec une fausse carte ou une carte qui n'est pas la sienne ou une identité qui n'est pas la sienne. Donc, le patron doit faire des documents spécifiques, un récépissé spécifique. Donc, faut obtenir, il faut avoir un putain de rapport de force. Faut vraiment tordre le bras pour faire signer ça. Et après, faut la préfecture et faut redescendre. Enfin bon, quand on parle de lutte, 7 mois et 4 jours, quoi. 7 mois.
Et c'est une victoire. Non, c'est ça qui est important quand même. Ouais. C'est une victoire. Ça aurait pu être une défaite. Hein.
Et on le voit, l'école de ces travailleurs sans papier, c'est vraiment ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, des luttes extrêmement âpres pour obtenir ne serait-ce que la dignité, mais aussi du travail et des papiers de reconnaissance. Ici à Alfortville, là, les femmes d'hôtel, des hôtels Accor et Arcade, etc., etc. Un bon exemple à suivre.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était les Rigors, chaque semaine sur les Coligaris, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur As, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net ou sur le blog Le Chat Noir 51.